Sébastien Guyot sur Europe 1.
Très heureux de vous accueillir pour votre grand journal du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une grande épopée. D'abord à vélo dans les Pyrénées, nouvelle étape de folie sur le Tour de France. On y part dans une minute. Puis je vous emmènerai près des pyramides du Caire, ou presque, pour rencontrer Toutankhamon. Déjà plus d'un million de visiteurs pour l'expo de la Villette à Paris. Le président de la Grande Halle sera avec nous. Bogota, Denver, Nairobi seront également au menu de notre épopée. Si vous êtes fan de Casa de Papel, vous aurez reconnu certains des personnages. La saison 3 est disponible depuis vendredi. Le spécialiste des séries, Pierre Langlais, sera avec nous. Et puis à 18h15, nous prendrons le tunnel sous la Manche, direction Londres. Au 10 Downing Street, il y aura un nouveau Premier ministre. Mardi, certainement Boris Johnson, le clone de Donald Trump en Europe. Eh bien, nous poserons la question à John Henley, correspondant du Guardian à Paris. Et puis nous finirons par une balade gourmande dans nos belles régions françaises. Ce soir, une savoureuse poire tapée dans un site troglodyte. Bienvenue à bord, installez-vous, durée du voyage, une heure.
Et n'hésitez pas à réagir à l'émission de Sébastien Guyot sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et bien entendu sur Europe1.fr. Bienvenue, il est 18h. Et c'est l'heure de retrouver votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot.
Et à la une ce soir, le Tour de France, donc nouvelle démonstration de Thibaut Pinot dans les Pyrénées. Julien Alaphilippe cale mais conserve son maillot jaune. Une nouvelle canicule qui arrive en France et la sécheresse déjà très présente. La septième la plus importante en 60 ans. Nous verrons s'il faut y voir là le signe du réchauffement climatique. Et puis les émouvantes commémorations du Veldiv ce matin à Paris. Témoignage poignant de rescapés et la ministre Florence Parly au bord des larmes.
Europe 1.
Mais sans plus tarder, nous partons à Foix-Pradalbis, rejoindre Axel May sur la ligne d'arrivée du Tour de France. Bonsoir Axel.
Bonsoir Sébastien.
Encore une très grande étape dans les Pyrénées aujourd'hui et encore Axel, un très grand Thibaut Pinot.
Oui, la victoire, on va quand même donner le nom du vainqueur, Simon Yates, qui s'est imposé. Deuxième victoire d'étape pour l'un des jumeaux Yates sur ce Tour de France. Mais effectivement, derrière, c'est Thibaut Pinot qui est arrivé en deuxième position. Il a attaqué dans cette dernière montée au-dessus de Foix et il est allé récupérer, reprendre du temps au meilleur à Geraint Thomas, à Julien Alaphilippe. Ce qui veut dire que ce matin, il était sixième au général. Ce soir, Thibaut Pinot, il est quatrième. Vous avez Julien Alaphilippe qui a perdu du temps, qui a encore 1 minute 35 d'avance sur Geraint Thomas, le Gallois, le vainqueur sortant. À quelques secondes derrière, il y a Steven Kruiswijk, le Néerlandais dont je vous parlais déjà hier et qu'il faudra surveiller jusqu'au bout. Et puis en quatrième position, à 3 secondes du podium, Thibaut Pinot. Demain, c'est journée de repos. Mercredi, on aura une journée de plaine. Jeudi, arrivée en descente. Samedi et dimanche, et vendredi et samedi, deux grosses arrivées au sommet, à Tignes et à Val Thorens. C'est là que se jouera le Tour de France. Mais au moment où l'on parle, Sébastien, on ne sait plus quoi penser. Le tour est ouvert, on ne sait pas qui sera sacré dimanche prochain sur les Champs-Elysées.
On ne sait plus quoi penser, mais on sait que c'est un grand cru ce Tour 2019. Merci Axel May. On vous retrouve à 19h10 pour le Club Tour jusqu'à 20h.
Europe 1, 18h02.
Europe 1, Sébastien Guyot.
Et à la une de l'actualité ce soir également, la canicule et la sécheresse en France. 21 départements en vigilance orange canicule dans le sud-ouest et le centre-est dès demain matin 6h. Second épisode caniculaire en quelques semaines. Et dans le même temps, 73 départements ont pris des mesures de restriction d'eau. La France, Johanna Chabas, vit l'une de ses plus grandes sécheresses depuis 60 ans.
Et oui, c'est la septième sécheresse la plus grave depuis 1958, selon Météo France. 26 départements sont en situation de crise. C'est surtout l'ouest et le centre de la France qui sont touchés. Cela va de la Vendée, de la Loire-Atlantique à la Saône-et-Loire, en passant par l'Indre et la Creuse. Dans ces départements, les restrictions d'eau sont les plus fortes. Seuls les prélèvements prioritaires sont autorisés, donc pour l'eau potable ou encore les services de santé. C'est rare qu'autant de départements soient touchés. Le climatologue Hervé Le Treut y voit le signe du réchauffement climatique.
Quand on regarde les statistiques sur les 40 ou 50 dernières années, on voit que le nombre de sécheresses a augmenté de manière forte il y a une vingtaine d'années à peu près. Tout ça est le symptôme de quelque chose qui change et on sait que ça change à cause du réchauffement global de la planète et des gaz à effet de serre. Et ce réchauffement a des conséquences qui deviennent de plus en plus visibles. On a de plus en plus d'événements, on a beaucoup plus d'endroits où il y a des sécheresses. On bat des records aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est qu'on va continuer à en battre dans les années qui viennent.
Pour éviter ce scénario, Hervé Le Treut ne voit qu'une solution, ne pas juste changer nos habitudes, mais modifier durablement notre agriculture en favorisant le bio, par exemple.
Merci Johanna Chabas et nous reviendrons en détail sur la vigilance canicule orange avec Laurent Cabrol juste après ce journal. Aux États-Unis, la canicule a fait 3 morts déjà dans l'état du Maryland, près de Washington, où les températures ressenties atteignent 45 degrés. Et puis au Portugal, c'est un incendie de grande ampleur contre lequel luttent toujours ce soir 1300 pompiers, appuyés par 400 véhicules et des dizaines d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau. Depuis hier, une vingtaine de personnes ont été blessées dans une région montagneuse du centre du pays, la même où un incendie avait fait une centaine de morts il y a 2 ans. L'hommage de la France aux victimes de la rafle du Veldiv. De nombreuses cérémonies étaient organisées aujourd'hui. À Paris, notamment, Kate Grenelle, en présence de la ministre des Armées, Florence Parly, très émue. Le 16 juillet 42, 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, étaient arrêtés en région parisienne et rassemblés au Veldiv avant d'être livrés aux nazis. Bonsoir Justin Morin.
Bonsoir.
Vous avez rencontré ce matin une rescapée qui est parmi les dernières encore en vie à pouvoir raconter cette page sombre de l'histoire française.
Oui, elle s'appelle Esther Sénot, aujourd'hui âgée de 91 ans. Le 16 juillet 1942, elle en a à peine 15 et vit dans un petit appartement avec ses parents et ses 7 frères et sœurs à Paris. La police française fait alors irruption dans son immeuble.
On a entendu des bruits. On ne comprenait pas ce qui se passait. Dans l'immeuble, ils ont fait descendre des familles. On a entendu des cris, des pleurs de petits-enfants. Ma mère était complètement paniquée.
Pourtant, la police ne frappe pas à leur porte. Inquiète, sa maman lui demande alors de rendre visite à sa belle-sœur pour savoir si tout va bien. Esther la découvre effrayée, cachée dans une chambre de bonne. Elle retourne alors chez elle.
Et là, je me suis retrouvée devant la porte avec les scellés. Je ne peux plus rentrer chez moi. Mes parents ont été arrêtés. Avec mon petit frère Achille qui avait 11 ans. Donc je ne sais pas où aller, je suis complètement démoralisée. La concierge me dit, bien, tu restes là. Elle m'a gardée dans sa loge à peu près 2 semaines. Elle était française.
Esther a échappé à la rafle du Veldiv, mais son histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, contrôle d'identité, elle n'a plus de papier, elle est arrêtée à son tour, déportée à Birkenau où elle retrouve sa sœur, proche de la mort.
Elle m'a dit que si j'avais une chance de survivre, je devais témoigner pour que le monde sache les horreurs commises. Je fais partie de ceux qui témoigneront jusqu'au bout.
Aujourd'hui, Esther survivante, elle continue de tenir la promesse faite à sa sœur. Dans le discours qui a suivi Florence Parly, la ministre des Armées, la voix chancelante a eu beaucoup de mal à cacher son émotion.
Merci pour ce récit, Justin Morin. Cesser de harceler les ONG, c'est le cri lancé par Médecins Sans Frontières qui a repris la mer avec SOS Méditerranée pour sauver des migrants naufragés. Un nouveau bateau battant pavillon norvégien se dirige actuellement vers la Libye. Et puis toujours à propos des migrants, Matteo Salvini a écrit à Christophe Castaner « La France et l'Allemagne ne peuvent décider seules des politiques migratoire », écrit le ministre italien de l'Intérieur. Toujours à l'étranger, à Hong Kong, la police a tiré ce soir des balles en caoutchouc pour disperser la foule. Plus de 400 000 personnes, selon les organisateurs, qui jetaient des œufs et venaient d'inscrire des graffitis sur la façade du bureau de liaison du gouvernement chinois à Hong Kong.
Europe 1. Et dans un instant, la suite du journal de Sébastien Guyot avec l'ouverture à Paris d'un lieu chaleureux pour les femmes atteintes d'un cancer. Ça s'appelle la Maison Rose. À tout de suite.
18h-19h. Votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Il est 18h08, bonne soirée à l'écoute d'Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Sébastien Guyot.
Il n'existait pas jusqu'à présent à Paris de structure d'écoute pour accueillir les femmes atteintes de cancer. Eh bien, c'est désormais chose faite. Après Bordeaux, il y a 3 ans, l'association Rose Up vient d'ouvrir une seconde maison rose en France. Un lieu pour être écoutée, dorlotée, dans un havre de 230 mètres carrés. Caroline Baudry s'y est rendue pour Europe 1.
Quand on entre dans cette petite maison lumineuse, pas de blouse blanche à l'horizon, mais une grande cuisine ouverte, des salles de massage, de bien-être et des salons pour se détendre et discuter. Cet après-midi, Olivia, atteinte d'un cancer, participe à un atelier sur l'exposition au soleil.
À la plage, est-ce qu'on peut bronzer à l'ombre ?
Eh oui.
Et oui, parce qu'au final, on a la réverbération.
J'ai au moins une fois par semaine, voire deux. On se sent libre en fait, de parler de notre maladie, des soucis qu'en fait, on rencontre chacune avec des traitements très durs. On se sent un peu comme chez nous, il y a plus de solidarité et on se sent moins seul.
Ici, pour seulement 25 euros l'année, les femmes, pendant ou après leur maladie, peuvent venir profiter de cours de yoga ou de cuisine, trouver les bonnes adresses pour acheter une perruque ou de la lingerie adaptée après un cancer du sein. Aurélie Benoît-Grange, directrice des lieux, prépare, toujours avec l'aide des femmes, le programme de la semaine.
De la sophrologie, des séances beauté et bien-être en individuel. Vous avez de la gym posturale et on travaille aussi sur la prévention, sur l'après, une meilleure nutrition, reprendre du sport pour éviter les récidives.
Et contrairement à d'autres structures, la Maison Rose, elle, reste ouverte tout l'été pour accueillir ces femmes qui souvent ne peuvent pas partir en vacances à cause de leur traitement.
La Maison Rose située 27 rue de Rambouillet dans le 12e arrondissement de Paris. Merci Caroline Baudry. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, disparaissait Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde. 40 étoiles Michelin, rendez-vous compte, au cours de sa carrière dans une dizaine de restaurants. 32, même encore à sa mort le 6 août 2018. Joël Robuchon, un visionnaire qui avait enseigné à l'un de ses élèves la gastronomie botanique. Cet élève, c'est l'Espagnol Rodrigo de la Calle et jusqu'à la fin du mois d'août, il présente sa cuisine basée sur le respect de la nature. Reportage à Monte Carlo de notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Il est venu de Madrid avec sa brigade et ses recettes gastro-botaniques.
Devant vous, vous allez avoir l'élégance de l'ail noir, rutabaga et tofu légèrement épicé.
Un service en 7 tableaux, Émilie David, maître d'hôtel au Métropole de Monte Carlo.
On est sur 21 plats, mais sur 7 différents passages, hein, puisqu'on est à chaque fois sur plusieurs saveurs et plusieurs plats différents sur chaque séquence de service.
Navet menthe, betterave pomme, tomate fraise en dessert. Le menu ressemble à une liste de courses, mais c'est un véritable voyage gustatif auquel le chef Rodrigo de la Cahier vous convie.
C'est un projet qui a commencé en 2000. On voulait remettre au goût du jour des espèces végétales en voie de disparition. Alors moi, j'aime l'appeler la cuisine verte.
Au centre de la table, vous allez retrouver une paella que vous allez pouvoir rouler avec le bout de vos doigts.
Antoine travaille en salle. Il a été conquis par cette cuisine innovante et ludique.
On va vraiment avoir l'objectif de manger avec les doigts d'un côté, avec les couverts de l'autre. C'est ça aussi le côté partage, le côté convivial que Rodrigo essaye de donner dans sa cuisine.
Christophe Cussac est le chef exécutif de l'hôtel Métropole.
Tout cet esprit-là, M. Robuchon l'a vu déjà 10 ans avant tout le monde. Comme il l'a vu il y a 40 ans quand il a fait la purée qui était un plat de famille et qui est devenu le plat de référence.
En 2011, grâce à sa révolution verte, Rodrigo de la Calle a décroché à Madrid une étoile au Michelin.
Le reportage gourmet de Frédéric Michel. Et puis nous poursuivrons notre voyage gustatif avant 19h avec Marion Sauveur et notre tour de France des spécialités culinaires. Vos régions sur un plateau, c'est vers 18h50. La météo, Laurent Cabrol, je le disais, 21 départements du sud-ouest et du centre-est placés en vigilance orange canicule à partir de 6h demain matin.
Effectivement, les jours qui viennent s'annoncent franchement désagréables et pénibles à supporter, avec des températures certes qui n'atteindront pas le niveau de la canicule de juin d'il y a à peine un mois, mais l'intensité sera beaucoup plus élevée sur les régions de la moitié nord, alors que dans le sud, elles seront identiques, ces températures, à celles de juin. Un exemple pour demain, hein, demain ne seront pas encore au point culminant, mais nous aurons du 39 degrés dans le Lot, du 38 à Agen, Albi, à Aubenas, Toulouse, Bordeaux et Montauban, 37, 36 à Angoulême, Poitiers, Limoges, 36, 35 à Tours, à Biarritz et à Niort, 34 degrés à Lyon, Chambéry, Annecy, Grenoble, Châteauroux, 33 à Paris, comme à Dijon et Angers. Vous voyez que les températures très élevées, 32 à Besançon, et puis plus respirable, La Rochelle, Lons-le-Saunier, 31, 29 à Lille, 28 à Quimper, 25 à Brest et 22 degrés à Cherbourg, dans un ciel qui restera limpide, vous l'imaginez. Il n'y aura pratiquement rien à dire en ce qui concerne la couleur du ciel. Tout se résume à des températures extrêmement élevées.
Merci Laurent Cabrol et on vous retrouve à 18h30 pour la météo des plages, ça nous fera du bien.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre, bonsoir Christophe.
Bonsoir Sébastien.
Le Tour de France pour commencer, un Britannique qui s'impose à Foix et Alaphilippe qui est un maillot jaune en sursis.
Simon Yates s'offre une deuxième victoire d'étape sur ce Tour. Le Britannique s'est imposé en solitaire mais l'essentiel s'est passé derrière lui. Thibaut Pinot termine deuxième et grappille quelques précieuses secondes sur ses rivaux pour le podium. Geraint Thomas et Julien Alaphilippe n'ont pas passé une merveilleuse journée. Le maillot jaune a lâché du temps dans la dernière ascension. Une journée difficile et des conditions de météo épouvantables, de la brume, de la pluie, un temps de chien. Non, un temps de Pinot. Il adore ça, le coureur de la FDJ.
C'est mon temps aussi, donc c'est ma météo et il fallait que j'en profite. C'était une belle étape comme j'aime. Voilà, aujourd'hui j'ai des bonnes sensations, il fallait que j'en profite. Je savais que la fin était un peu moins raide, donc voilà, je savais que même si j'attaquais dans le raid, je prenais pas trop de risques à mettre dans le rouge parce que voilà, je savais qu'après dans les roues, peut-être que si je me faisais contrer, il y avait moyen de suivre quand même. Ce que je sais, c'est que voilà, j'ai repris du temps à tout le monde et c'est le principal. Il faut continuer, de toute façon maintenant on est parti pour. Pour remonter au classement général et les étapes les plus dures arrivent, les Alpes, donc Si j'ai la bonne jambe, je continuerai à prendre du temps. Mais voilà, aujourd'hui, il faut en profiter. Quand on a des bonnes jambes, il faut toujours profiter.
Thibaut Pinot au micro de Marguerite Lefebvre.
Alors, au classement général, ça change.
Oui, Julien Alaphilippe reste en jaune, mais derrière, les écarts se resserrent effectivement. Il ne compte plus que 1 minute et 35 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Steven Kruijswijk pointe à 1 minute et 47 secondes. Thibaut Pinot est juste là, au pied du podium, à 3 secondes du Néerlandais. La journée de repos demain devrait faire du bien à tout le monde. Reprise des hostilités mardi avec une étape de 177 km autour de Nîmes. Et puis un dernier mot de cyclisme, Pauline Ferrand-Prévot est championne de France de VTT pour la 6e année consécutive.
Bravo. Le football, la Ligue 1 poursuit son opération séduction aux États-Unis pourvu que la finale soit belle.
Marseille-Saint-Etienne, c'est l'affiche de cette finale EA Ligue 1 Games. Ouf, je l'ai bien dit. Bien sûr, il ne s'agit que d'un tournoi amical, mais on le sait, les clubs français cherchent des investisseurs pour prendre le relais. L'OM et Bordeaux sont passés par exemple sous pavillon américain. Les dirigeants stéphanois rêvent eux aussi d'Amérique, mais le mieux serait de l'emporter cette nuit. C'est aussi le souhait de Ghislain Printemps, mais l'entraîneur y voit d'abord un intérêt sportif.
C'est un tournoi, donc je pense que les joueurs ont à cœur d'essayer, je dis bien d'essayer de le remporter. Après, ça, on reste toujours dans la préparation avec le même objectif, mais c'est vrai que c'est une petite finale et on va tout faire pour être la première équipe française à gagner justement ce challenge.
Ghislain Printemps, entraîneur des Verts au micro de Cyril de la Morinerie. Marseille-Saint-Etienne, coup d'envoi cette nuit à 3h du matin. De son côté, l'entraîneur marseillais André Villas-Boas a fixé ses objectifs pour la saison prochaine. 4 ou 5 arrivées et le podium.
En bref, le reste de l'actualité sportive.
Le tennis, premier titre sur le grand circuit pour Fiona Ferro, la française de 22 ans, remporte le tournoi de Lausanne aux dépens d'Alizé Cornet. Un succès qui va permettre à Fiona Ferro de faire un bond de 38 places au classement WTA, s'il vous plaît. Elle sera 60e demain. Bravo à elle.
C'était le journal des sports de Christophe Lamarre. Merci Christophe.
Europe 1.
Dans un instant, notre premier invité, premier arrêt de notre épopée, c'est John Henley qui monte à bord, correspondant du Guardian à Paris. Mardi, Boris Johnson sera certainement désigné Premier ministre britannique. Quelles conséquences pour l'Europe ? Est-il le clone de Donald Trump ? On en parle avec lui juste après la pause.
Sébastien Guyot sur Europe 1. Il est 18h17, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, le grand journal du soir avec Sébastien Guyot et c'est l'heure d'accueillir votre premier invité.
Bonsoir John Henley.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct ce soir en studio sur Europe 1. Vous êtes le correspondant du Guardian à Paris et vous allez nous aider à mieux comprendre le personnage du fantasque Boris Johnson qui sera certainement le nouveau Premier ministre britannique dans moins de 48 heures. C'est un trublion, il fait peur. Pourquoi ? Parce que comme Donald Trump, il est tout sauf politiquement correct ?
Il est tout sauf politiquement correct. Ils ont beaucoup de choses en commun, hein, c'est vrai. Ils manipulent très bien les mensonges. Ce sont de véritables usines de fake news quand ils veulent. Mais Boris Johnson, à part ça, il y a aussi de grandes différences. Johnson, il est quand même assez brillant. Il a fait un parcours vraiment sans faute dans l'éducation britannique. Les plus grandes écoles, Eton, Oxford. Et l'université d'Oxford. Il maîtrise le latin, le grec.
Le français.
Et c'est un conservateur en fait assez classique, assez libéral. À part sur cette question du Brexit, où il est vraiment, je pense, extrémiste.
Alors justement, sur le Brexit, hier, des dizaines de milliers de personnes ont encore défilé à Londres pour dire oui à l'Europe et non à Boris. C'était le slogan. Le Brexit a divisé le pays en deux avec l'arrivée d'un Boris Johnson. Ça va être pire dans le pays ?
Oui, je pense pas que ça va apaiser les choses, c'est clair. Surtout parce que si on regarde qu'est-ce qui va se passer, je pense que c'est assez clair. Rien n'a changé au Parlement britannique. Le Parlement britannique est toujours complètement divisé sur la question. Il n'y a pas de majorité pour quel Brexit qu'il soit. Il n'y a aucun genre de Brexit qui a une majorité parmi les députés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Boris Johnson, il a promis de sortir deal ou no deal. Donc
le 31 octobre, c'est la date butoir.
Voilà.
Même s'il y a un no deal, on sort.
Absolument, c'est ce qu'il a promis. Donc il va voir Bruxelles, à l'aide 27 à Bruxelles. Il va leur demander de renégocier. Les 27, ils vont dire, bah non, désolé, on a déjà dit 1000 fois, on ne renégocie pas. L'accord de sortie est fermé, on ne le rouvre pas.
Donc on va revoir le même feuilleton encore et encore.
Après, Johnson, il va revenir à Westminster. Il va dire à la Chambre des communes, bon, donc ça y est. on y va, on sort sans accord. Le Parlement britannique va dire, bah non, désolé, on l'a dit déjà 4-5 fois, on ne sort pas sans accord.
Et donc après,
on est dans la même situation.
Dans l'impasse. Il va faire ça avec qui? Parce que là, aujourd'hui, il y a quelques heures seulement, hein, il y a le ministre britannique de la Défense qui a dit qu'il démissionnerait si Boris Johnson était désigné mardi.
Le ministre des Finances, absolument. Philippe Hammond qui a dit et qui va sans doute, je pense, mener un peu la résistance dans la Chambre des communes. Donc oui, voilà, je pense qu'on s'achemine très probablement soit vers une sortie sans accord, parce qu'il faut se rappeler quand même, cette sortie sans accord, c'est l'option par défaut maintenant. Mm-hmm. Hein, il faut, pour éviter cette option sans accord, il faut que la Grande-Bretagne, que Boris, il demande encore un report, encore une extension, ce qu'il a promis de ne pas faire. Donc il faut aussi que l'Union européenne l'accorde. Mm-hmm. Et il faudrait aussi ensuite que le Parlement britannique l'approuve. Donc tout ça pour éviter sans accord, ça va être compliqué. Si ce n'est pas ça, je pense que probablement la solution la plus probable, ce sont des élections législatives anticipées.
On parle de Boris Johnson, c'est quasi acquis qu'il sera Premier ministre mardi.
Le dernier sondage, c'était 73%, je pense.
Pour lui, contre Johnson. Jeremy Hunt, oui. L'actuel chef de la diplomatie. Alors, autre sujet, cette crise entre Londres et Washington. Récemment, l'ambassadeur britannique aux États-Unis a été poussé à la démission parce qu'il avait qualifié Donald Trump d'inepte, d'instable, d'incompétent. Boris Johnson, pour le coup, il ne l'a pas défendu. Pourquoi ?
Parce que ce qu'il cherche surtout, c'est une très bonne relation avec les États-Unis après le Brexit. Il compte beaucoup sur un accord de libre-échange avec les Américains pour compenser en quelque sorte, même si ça ne compenserait pas vraiment,
la sortie de l'Union européenne. Alors, il veut un accord de libre-échange, quitte à autoriser l'entrée sur le territoire britannique de poulets américains lavés au chlore, par exemple.
Tout à fait. Bah, c'est l'une des grandes ironies de ce Brexit tant voulu par les Brexiteurs. Ils cherchent la liberté, la souveraineté britannique, mais s'ils essaient d'entrer dans un accord de libre-échange avec, par exemple, la Chine, l'Inde, les États-Unis, ça sera très certainement sur les termes, sur les conditions de ces économies qui sont toutes beaucoup plus puissantes que celles de la Grande-Bretagne.
John Henley, correspondant du Guardian à Paris, un mot maintenant de la tension dans le détroit d'Ormuz. On parle beaucoup de ça dans les médias britanniques depuis hier, avec ce tanker britannique qui a été saisi par l'Iran. L'actuel chef de la diplomatie, qui est concurrent donc de Boris Johnson pour le poste de Premier ministre, envisage une série d'options en réponse. Ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire très certainement pas de l'action militaire, je pense, mais il est vrai absolument que ça sera un grand, grand, grand défi pour Boris Johnson au tout début de son mandat. D'ailleurs, Jeremy Hunt, il va sans doute rester aux affaires étrangères, précisément pour cette raison-là. Mais non, ça sera le premier grand test absolument de Boris Johnson. Et de ce qu'on a appris de ses compétences quand il était, parce que lui aussi, avant Jeremy Hunt, il était ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas brillé dans ce poste-là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de brio, très flamboyant, oui, mais qui ne maîtrise pas véritablement les dossiers.
Qui écoute peut-être un peu plus ses conseillers qu'un Donald Trump.
Il faut l'espérer.
Il faut l'espérer. On restera là-dessus. Merci beaucoup, John Henley, correspondant donc du Guardian à Paris, d'être venu ce soir en studio sur Europe 1 pour décrypter l'arrivée très probable de Boris Johnson au 10 Downing Street. Ce sera mardi. Merci.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, deuxième arrêt de notre voyage. Nous partons à la rencontre du plus célèbre des pharaons, Toutankhamon. L'expo qui lui est consacrée a franchi la barre du million de visiteurs à Paris. Le président de la Grande Halle de la Villette sera avec nous sur Europe 1.
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et à 18h27, la suite de votre grand journal, Sébastien.
Et l'essentiel de l'actualité, c'est avec Sophie Echen. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Sébastien. L'arrivée de la deuxième vague de canicule en France, 21 départements sont placés en alerte orange dans le sud-ouest et la vallée du Rhône. Une vigilance qui s'étendra vite à la majeure partie du pays au cours de la semaine. 73 départements sont toujours concernés par des mesures de restriction d'eau à cause de la sécheresse. Les prélèvements sont même interdits dans 26 d'entre eux. 1300 pompiers mobilisés au Portugal où un incendie fait rage depuis hier dans le centre du pays. Une zone montagneuse où le feu avait déjà tué une centaine de personnes en 2017. Les pompiers sont appuyés par 400 véhicules, 13 bombardiers d'eau. Les flammes ont fait 20 blessés. Une enquête est ouverte après la mort d'un Guinéen de 31 ans vendredi soir. Cet enseignant-chercheur a été roué de coups dans la banlieue de Rouen. Une agression raciste selon ses proches. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner assure que tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de cet acte. SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières repartent en mer. Les deux ONG lancent une nouvelle opération de sauvetage au large des côtes libyennes avec un nouveau navire humanitaire, l'Ocean Viking, sous pavillon norvégien. L'Aquarius, lui, est toujours immobilisé depuis 7 mois. Et puis la nouvelle performance de Thibaut Pinot. Le Français arrive deuxième de la 15e étape du Tour de France, juste derrière Simon Yates. Le Britannique remporte sa deuxième victoire d'étape. Thibaut Pinot qui se hisse à la 4e place du classement général. Et puis Julien Alaphilippe en souffrance parvient malgré tout à garder son maillot jaune.
Merci Sophie Echen. On vous retrouve à 19h pour le journal. Ce sera juste avant le Club Tour et on viendra longuement bien sûr sur cette étape pyrénéenne avec Axel May et tous ses invités.
Europe 1.
Avec l'arrivée de la canicule demain et mardi, on en vit ce soir celles et ceux qui seront en bord de mer, Laurent Cabrol.
Allez, un petit coup d'œil sur cette météo des plages qui nous rend le sourire, puisque vraiment c'est le seul endroit de France où l'on supportera la canicule et la chaleur très élevée qui va régner sur le pays. Manche et mer du Nord, 24-25, vous voyez que les températures seront, ma foi, assez agréables en raison des vents de mer qui viennent rafraîchir un peu l'atmosphère. 18 à 19 degrés dans l'eau, hein, que ce soit à Perros-Guirec, à Barfleur ou à Ménilval. Vous avez dans toutes ces régions de la Manche et de la mer du Nord, toutes ces plages, un temps ensoleillé, bien entendu. Le soleil sera là aussi sur l'Atlantique entre la Bretagne et la Vendée. Nous aurons quelques brumes le matin, mais enfin, ça ne va pas durer. La Bretagne et la Vendée jusque pratiquement jusqu'au golfe de Gascogne, même totalement, sur toutes ces côtes atlantiques. Il fera beau, 32-33 degrés en bord de mer, 22-23 degrés pour la baignade. Enfin, Méditerranée, Argelès, Le Cadre, Valras, ce sera le grand beau temps avec du 29 à 31 degrés. Sur le sable à l'ombre des parasols, 24 à 26 lorsque vous vous baignerez. Encore, ce sera pratiquement les mêmes températures. Allez, belles vacances.
Merci, belles vacances à vous toutes et tous. Merci Laurent Cabrol, on se retrouve à 19h.
Il est 18h30, la suite de votre grand journal du soir, avec Sébastien Guyot. C'est l'heure d'accueillir cette fois votre deuxième invité.
Et son simple nom va vous faire rêver comme des millions de personnes. Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons. Alors, il n'est pas avec nous, mais on va accueillir le président de la grande halle de la Villette à Paris qui accueille une exposition qui a déjà reçu plus d'un million de visiteurs. Bonsoir Didier Fusilier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le président de la Villette et un homme heureux, j'imagine.
Oui, nous sommes très heureux parce qu'effectivement, il y a à la fois beaucoup de monde, mais je crois que le public est heureux de découvrir ces merveilles, dont certaines n'étaient jamais sorties du Caire. Hein, près de 50 objets
sur les 150 présentés.
Et une vingtaine n'avaient même jamais été vues par personne. Donc c'est vraiment un choc. Et puis vous pénétrez vraiment dans... à la fois, évidemment, cette idée incroyable de l'au-delà qui nous préoccupe tous, hein, quelle que soit notre religion, c'est quand même le grand mystère. Est-ce qu'il y a quelque chose après notre mort? Et là, on voit un monde organisé avec ses serviteurs, avec les dieux et les portes que l'on doit franchir pour arriver à une sorte de sérénité absolue.
Et donc, vous voyez l'émotion sur le visage des visiteurs. Il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, en 1967, il y avait déjà eu une exposition Toutankhamon à Paris, au Petit Palais. 1,2 million de visiteurs. Là, vous l'avez prolongé d'une semaine en septembre, c'est pour battre leur record ?
Bah, écoutez, nous verrons bien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a encore de plus en plus de monde.
On a combien là aujourd'hui ?
On est à un peu plus d'un million, 50 000. Oui, il n'est pas impossible que ce soit un des records, en tout cas en France. C'est vrai que nous ne nous attendions pas quand même à on espérait 600 000, 650 000. Mais là, c'est vraiment un phénomène.
Ça veut dire qu'on peut encore la voir ou c'est impossible? Est-ce que vous remettez des places chaque jour en vente?
Oui, alors chaque jour, il y a 300 places qui sont, depuis le début, hein, 300 places qui sont disponibles pour le jour même. Parfois, il y a des désistements. Donc, on remet évidemment immédiatement les places en vente. On peut se présenter au guichet, évidemment.
Mais il y a la queue, j'imagine.
Mais non, il n'y a aucune queue. C'est ça qui surprend beaucoup, parce que c'est très organisé. Quand vous avez, par exemple, sur votre billet 17h, vous entrez à 17h. Et là, vous visitez le temps que vous souhaitez. Ça dure à peu près une heure, on va dire. Mais il y a des films, il y a des photos, on plonge aussi dans, au moment où la tombe a été découverte, parce que c'était quand même absolument incroyable. C'est un enfant qui tombe dans un trou, on découvre une marche, on descend, et c'est parce que la tombe était cachée en dessous d'une autre tombe, donc pour ça qu'elle n'a pas été pillée. Et puis là, on découvre effectivement d'abord les deux gardiens, dont l'un des deux est à la Villette. Et puis derrière, ce trésor fabuleux, il aura fallu 10 ans pour sortir toutes les pièces.
Voilà, on est en 1922 sur la découverte, et 10 ans plus tard, on découvre les 5000 objets, 1,5 tonne d'or. Et donc aujourd'hui, 150 à voir ici à la Villette à Paris. Quel est celui qui attire le plus les visiteurs ?
Vous savez, nous avons tout l'ornement de la momie, sauf le masque d'or qui ne peut plus sortir du Caire, qui ne sortira plus du Caire, hein, qui était par contre à l'exposition en 1967, hein, mais il y avait beaucoup moins d'objets à l'époque. Mais vous avez tout le reste, les sceptres, les garnitures, des doigts, les grands plastrons en or, évidemment cet oiseau magnifique, hein, tous les dieux qui sont présentés. Donc ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et puis alors, un de mes favoris, c'est
le
petit dieu Ptah. C'est celui qui ouvrait la bouche du pharaon quand il était mort pour qu'il puisse parler aux dieux. Et lui est recouvert, et là on est dans Star Trek, on est dans un truc de science-fiction, il a une sorte de petit bonnet bleu en lapis-lazuli, et il est en or, il a cette... franchement, il a une attitude que vous n'oubliez pas de votre vie, c'est sûr.
Et puis il y a aussi ce petit trône d'enfant, hein, qui est incrusté d'ébène et d'ivoire, plaqué de feuilles d'or. J'imagine que là aussi, les enfants, les grands, les adultes qui voient ça, arrivent à se transposer à l'époque, il y a 3000 ans.
Oui, parce qu'il a en plus des petites pattes de lion, ce trône qui est intact. Hein. Il ne faut pas oublier que tous les objets que vous voyez là, il y a une petite théière bleue aussi, en verre, mais tout, rien n'est même ébréché, parce que tout est... On n'y croit pas. Enfin, oui, ce sont les seuls objets de l'Antiquité que nous ayons pu retrouver à ce point intacts.
Alors, il y a beaucoup de mystères encore autour de Toutankhamon, malgré tout. Il est mort vers 18 ou 19 ans. On ne sait pas vraiment de quoi. Certains disent que c'est à cause d'une jambe fracturée. De récentes analyses ADN disent le paludisme. Qu'en est-il ?
Mais en fait, il est mort. En fait, il n'était pas sur le Nil. Hein. Il était dans les provinces du Sud. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu pas mal de temps pour le ramener. Sa momie était très mal conservée. C'est un accident de char, sans doute, en fait, parce qu'il a une blessure à la jambe qui aurait pu s'infecter. Et il serait tombé. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur le crâne qu'il a un coup. Donc, on voit aussi dans l'exposition toutes ces recherches scientifiques pour essayer de déterminer d'abord qui était son père, qui était sa mère.
Alors, Akhenaton,
Akhenaton, ça c'est sûr. Ouais. Alors, sa mère, sans doute, vous savez, l'une des sœurs d'Akhenaton, c'était une tradition à l'époque, évidemment aujourd'hui incompréhensible, mais de se marier ensemble,
oui,
et de faire les enfants ensemble. C'est pour ça qu'il avait certaines difformités. Mais c'est un pharaon qui tombe pile, on est en 1335 avant Jésus-Christ, et c'est l'apogée de l'art. Qu'on voyait aujourd'hui les gravures d'or, les chasses à l'autruche, par exemple, qui semblaient absolument stupéfiantes. Une précision aussi, déjà, c'est alors surtout les visages, sur ces petites statuettes.
Certains spécialistes, pour ne pas les citer, les égyptologues de l'Université de Montpellier, affirment que la richesse du trésor trouvée dans la tombe de Toutankhamon est trompeuse. En fait, qu'une partie du mobilier n'a pas été faite pour le jeune pharaon, mais, vous parlez de sa sœur, pour sa grande sœur, Mérytaton.
Oui, qui a régné 3 ans. Avant lui, et qui a été assez oublié aussi, comme Toutankhamon, parce qu'il a fallu attendre la découverte de Carter pour se souvenir de ce pharaon dont tout avait été effacé, son nom avait été effacé partout. Et effectivement, il était tradition, hein, a priori, ce que disent les égyptologues, que l'on a puisé aussi dans le garde-meuble royal, parfois, et lui meurt très tôt, donc on n'avait pas eu le temps de préparer.
Donc ça explique les parties un peu féminines de certains objets qu'on voit dans l'exposition.
Alors, est-ce sa sœur, effectivement, notamment une représentation
une poitrine.
D'elle voilà, où elle a la poitrine, elle a effectivement un corps de femme, mais un visage qui pourrait rappeler Toutankhamon, ce qui crée le trouble. Il y a aussi il est totalement androgyne, quand on voit, vous savez, il y a ce petit couvercle qui tient un tout petit cercueil où étaient enfermés les viscères, eh bien, on dirait Michael Jackson. Enfin, c'est absolument incroyable de voir ça, effectivement.
Toutankhamon, Michael Jackson, c'est pas mal.
C'est
alors, certains, ces objets vont voyager à travers le monde jusqu'en 2021. Après Paris, il y aura Londres, puis Sydney. C'est une façon de financer le grand musée du Caire qui récupérera tous ces objets in fine. Comment se fait la répartition des recettes ? Vous redonnez de l'argent, vous ?
Donc c'est le musée du Caire, les autorités égyptiennes qui ont décidé de faire tourner effectivement ce trésor pour financer effectivement à peu près un tiers du grand musée qui est sur le plateau de Gizeh, c'est-à-dire là où sont les pyramides.
Alors
le musée du Caire aujourd'hui est au centre du Caire. Et puis quand on le connaît un peu, c'est vraiment un monde à part.
Et donc l'argent, les recettes ?
Et une partie des recettes nous revient, va aussi pour le musée et aussi aux organisateurs.
On aura l'occasion d'y revenir, mais en attendant cet été, courez, foncez voir donc l'expo Toutankhamon qui a été prolongée d'une semaine. Il n'y aura pas une nouvelle prolongation ?
Non,
c'est sûr ?
Ça part à Londres après.
D'accord, 22 septembre, dernier cara.
Oui, et tous les jours, de 9h à 20h.
Merci d'avoir été avec nous en studio ce soir.
Europe 1.
Vous êtes fan de série, restez avec nous. Mais restez, Fatima, la dernière saison de Casa des Papel. De nouveaux records pour Game of Thrones. Les séries à voir cet été, eh bien, on en parle dans un instant avec un grand spécialiste des séries, Pierre Langlais, journaliste à Télérama. A tout de suite.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot sur Europe 1.
Il est 18h39 et jusqu'à 19h, votre grand journal du soir avec Sébastien Guyot.
C'est devenu un rituel pour des millions de Français, célibataires ou non. Certains disent même que c'est la mort du couple avec cette question désormais inéluctable, implacable. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir comme série ? Les séries, phénomène de société mondiale, notamment depuis l'essor de Netflix. On en parle ce soir avec notre invité Pierre Langlais. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Entrons tout de suite, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec l'événement du week-end. Les fans auront reconnu le générique de Casa des Papel, série espagnole qui raconte le braquage de la fabrique nationale de la monnaie à Madrid avec les fameux masques à l'effigie de Dali. Pierre Langlais, le premier épisode de la troisième saison a été diffusé vendredi soir, il y a 2 jours, vous l'avez vu ?
Alors comme tous les autres d'ailleurs, ça se passe comme ça chez Netflix, ils mettent tout d'un coup, en tout cas cette première partie, deux, troisième partie, enfin c'est toujours compliqué. J'en ai vu 3 moi, en amont. Donc,
vous en avez pensé quoi ?
Bah, j'en ai pensé exactement que ce que j'avais pensé du reste, c'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi, c'est cousu de fil blanc, ça va à fond la caisse dans tous les sens, et les scénaristes ne se prennent pas trop la tête pour savoir si c'est possible ce qui se passe. Ceci étant dit, c'est sexy, c'est rythmé, c'est plutôt amusant, on se demande bien où tout ça va finir, et du coup on se fait avoir. Mais
donc les fans vont s'y retrouver, pour le reste, c'est peut-être la saison de trop.
Ils vont, alors la saison de trop, c'est un peu tôt pour d'employer ce genre d'expression là, en général il en faut un peu plus, mais disons que ça se répète un petit peu, mais que les fans seront sans doute comblés, le service clientèle est assuré. Après, ceux qui avaient trouvé que c'était un petit peu excessif de dire que c'était un truc génial et qu'il fallait absolument le voir, vont pas changer d'avis avec cette nouvelle partie.
En creux, on comprend que c'est votre cas.
Oui, mais en même temps, j'avais regardé ça. Alors, c'est un peu gavant pour parler poliment au bout d'un moment, parce qu'on fait, ok, bon, on a compris, 92 rebondissements par épisode, c'est un peu facile. Mais il y a quand même bien pire en termes de série télé.
Alors, l'an passé, Casa des Papel avait obtenu le prix de la meilleure série aux Emmy Awards.
International.
Oui. Cette année, et c'est l'autre événement de la semaine... Vous avez reconnu, bien sûr, le générique de Game of Thrones. Vous en êtes fan ?
Non.
En tout cas, vous en êtes spécialiste.
Oui, moi, je fais toujours le journaliste. Voilà, je fais toujours déontologiquement. Je ne suis fan de rien du tout. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des séries dont je suis fan. Oui, alors évidemment, c'est le gros événement. Alors, quand même, pour marquer une toute petite différence, la Casa des Papel a gagné les International Emmy Awards, qui ne sont pas la même chose que les Emmy Awards tout court, qui sont vraiment les prix pour les séries.
Et pour lesquels ils vont avoir 32 nominations cette année.
Nominations.
C'est un record.
C'est un record absolu, effectivement. Alors, sachant qu'il faut penser que dans ces nominations-là, il y a ce qu'on appelle les prix techniques. Donc, les prix de mise en scène, les prix d'effets spéciaux. Ces choses-là, voilà. Exactement. Mais c'est quand même un record parce que c'est une série record de toute façon.
Oui, je crois qu'ils en sont déjà à 161 nominations depuis le début.
Voilà, de toute façon, c'est un énorme blockbuster qui a fait un événement monstrueux pour sa dernière saison en termes d'audience, en termes de couverture médiatique, etc. Donc, ce n'est pas surprenant. Ceci étant dit, moi, je suis un peu agacé de voir que c'est Emilia Clarke et Kit Harington qui ont été nommés dans les catégories principales d'acteurs, alors que c'est peut-être les deux moins bons de la bande. Peter Dinklage, Maisie Williams auraient mérité d'être plus en amont. Voilà. Presque tous les acteurs sont nommés, donc évidemment, ils vont tout écrabouiller. Pour moi, Game of Thrones a été un événement unique dans l'histoire des séries télé. Ça a été un grand spectacle, un immense plaisir à suivre, mais c'est une série qui avait pas mal de défauts aussi et qui, évidemment, si elle va gagner peut-être grâce à sa popularité...
Oui. Et que c'était peut-être l'ultime saison, voilà, donc c'était on va pour récompenser ça, le phénomène. Voilà,
effectivement, c'est plutôt le phénomène qui sera récompensé. Il y a des séries qui sont bien plus fines qui peut-être mériteraient d'être récompensées.
Alors, on parle beaucoup d'une série cet été, c'est Tchernobyl. 19 nominations. Si on a raté quelque chose pendant l'année, il faut absolument le voir cet été.
Alors, il faut absolument le voir cet été, même si c'est pas exactement la définition de la série à regarder les pieds en éventail au bord de la piscine, puisque ça retrace les événements de Tchernobyl en 86, la catastrophe de l'intérieur. Alors, c'est une série britannique, hein, mais bon, diffusée par HBO aussi aux États-Unis, donc qui a une grosse visibilité internationale et qui a été un peu la grosse, grosse surprise. Elle est arrivée juste après Game of Thrones et curieusement, elle a créé un phénomène médiatique, public. Il a fallu un petit temps pour que les gens s'y intéressent. C'est une série qui est terrifiante. J'ai fini les épisodes dans un état de malaise et d'une violence émotionnelle. Mm-hmm. Et puis aussi de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quoi on a échappé? Ça aurait pu être bien pire. Et puis franchement, on sort de Tchernobyl avec une très violente envie de mettre fin au nucléaire et de planter une éolienne dans son jardin. Parce que, non mais, si ça se reproduit encore, il y a eu Fukushima entre temps.
Ça permet de réfléchir aussi.
Ça permet de réfléchir et au nucléaire et aussi évidemment au régime soviétique et à ceux qui lui ressemblent aujourd'hui, qui dit non, tout va bien, Donc tout va bien, alors qu'il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir et plus qui pourraient mourir.
Alors je le disais, les séries sont devenues un phénomène de société mondiale. Historiquement, les Américains étaient le meilleur. Là, apparemment, donc ça se passe en Espagne. Netflix va s'installer et c'est pas les seuls à Madrid. Et les Français dans tout ça?
Les Français, ils se cherchent, ils avancent, ils reculent. C'est un petit peu une danse où ils font deux pas en avant, un pas en arrière. En gros, depuis 2005 et l'arrivée d'Engrenage sur Canal+, on a une nouvelle ère qui s'est ouverte. Mais il y a des reculs régulièrement, il y a des ratés. On a un petit problème de légitimisation à tout point de vue des séries télé en France, de décideurs de chaînes qui sont encore dans des modèles plutôt old school, pour parler en bon français, vieille école, qui ont du mal à s'adapter au marché moderne. Et il faut mettre des coups de pied dans la fourmilière. Canal l'a fait en son temps, Arte le fait aussi. TF1 est un tout petit peu en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on commence à voir sur TF1 des séries qui sont un peu autre chose que ou systématiquement des polars ou systématiquement des comédies familiales. On sort un petit peu de ces schémas-là. France Télévisions a beaucoup de mal. France Télévisions avait proposé des choses et là, fait un petit peu du patin quoi, sur place.
Mais pourtant, en parlant de France Télévisions, il y a ça aussi qui passe et qui fonctionne. Il y a un succès. Les Français sont devant leur télé, c'est 3 millions tous les soirs en moyenne,
voilà,
pour un si grand soleil.
Je ne serais pas étonné si je vous dis que l'audience ne fait pas la qualité, mais ceci étant dit, les feuilletons quotidiens, comme on les appelle vulgairement, donc à commencer par Plus belle la vie et puis Demain nous appartient sur TF1 et Un plus grand soleil, sont intéressants d'un point de vue industriel parce qu'il faut une grosse machine pour faire tourner au quotidien ces choses-là. Ça fait travailler des scénaristes, ça fait travailler des metteurs, ça fait travailler plein de monde.
Mais ils travaillent plutôt pas mal, ils sont en rapport avec les sujets de société. PMA, sur l'évolution de la société notamment.
Voilà, effectivement, c'est des miroirs de la société qui sont assez intéressants, qui séduisent un public très large, 7-77 ans comme il dit sur les boîtes de jeux, et donc c'est intéressant. Maintenant, c'est pas des œuvres d'une très très grande finesse scénaristique, d'une très très grande finesse d'interprétation, ça se revendique pas comme tel, c'est-à-dire que c'est fait très vite donc on peut pas creuser aussi profond. Donc c'est intéressant d'un point de vue de ce que ça peut dire de la société, effectivement, et du système industriel, de l'industrialisation des séries qui est très importante. Mais ça ne remplacera pas, ça ne fera pas le Tchernobyl français.
Alors pour finir, vos conseils pour cet été, des séries à ne pas manquer, où on a creusé scénaristiquement, celles qui vous ont vraiment plu?
Alors évidemment, on va quand même commencer par une française. Allez voir ou revoir Hippocrate de Canal+, qui est la meilleure série française de la saison, clairement. Donc série médicale qui se passe dans un hôpital de la banlieue parisienne. C'est très fin, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, c'est très juste sur ce que ça dit de la société et de l'hôpital qui est en crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Il suffit d'écouter les infos en ce moment. Allez revoir Hippocrate. Par ailleurs, il y a une série qui arrive sur Amazon qui s'appelle, donc Amazon Prime Video fait des séries maintenant, c'est comme Netflix, c'est une plateforme. Ça s'appelle The Boys, c'est une série super-héroïque, mais c'est adapté d'un comic dont les super-héros sont en fait, on le comprend, des sortes de vedettes à l'ego surdimensionné, harceleurs, c'est très post-MeToo.
D'accord.
Et donc un groupe un petit peu de hors-la-loi va s'attaquer aux super-héros. En fait, c'est des super-héros pourri, et ça c'est quand même très intéressant.
Vous redonnez le titre?
The Boys, donc littéralement les garçons. Et puis vous pouvez aller revoir dans le désordre, par exemple, une série qui s'appelle Warrior, qui a été diffusée sur OCS, qui est une série qui avait été conçue par Bruce Lee en personne, et qui raconte au 19e siècle le quotidien de la communauté chinoise à San Francisco, dont le personnage principal qui travaille pour la mafia chinoise, et il y a des scène de combat très bruce-lienne. Donc si vous aimez un petit peu les drames en costume où d'un coup ils se mettent des coups de tatane en sautant partout, c'est particulièrement réussi. Voilà, il y a plein de choses à voir. Ouais. Si je voulais faire mon auto-promo, je dirais il y en a plein à voir aussi sur le site de Télérama. Du coup, ça vous fera des idées si vous en avez besoin.
Il est fort ce Pierre Langlais. Merci, spécialiste série et journaliste à Télérama, vous l'aurez compris. Merci pour votre éclairage. Merci. Et puis bon été à vous.
Bon été.
Europe 1.
C'est bientôt la fin de notre voyage. Marion Sauveur va monter à bord pour vous offrir une pause gourmande, vos régions sur un plateau. Elle nous emmène dans un site troglodyte. Où ça ? Suspense.
C'est l'été, vous êtes bien sur Europe 1. À 18h50, bienvenue si vous arrivez sur Europe 1. Prochain rendez-vous, la suite de votre grand journal sur Europe 1 avec Sébastien Guillaume. Sans oublier à 19h, le Club Tour, mais tout de suite, Eddie Mitchell.
On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee,
de Belle-Île en mer ou de Lucie. Foule sentimentale,
femme je vous aime, c'est la vie, mon chéri.
On a nos Mistral gagnants, Aline sur le sable blanc. Mais y'a des embouteillages
dans nos cœurs à tous les âges. Mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même tribu.
Moi je suis un homme heureux,
je vous imite tous quand je veux. Différents individus,
oui mais moi je fais crack.
Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu.
C'est un peu de douceur et de good vibes, comme on dit à l'instant sur Europe 1. La même tribu, Eddie Mitchell sur Europe 1.
Sébastien Guyot sur Europe 1.
Et vous arrivez dans la tribu du grand journal du soir, Sébastien, c'est l'heure de te passer à table.
Et des douceurs encore, en effet, avec vos régions sur un plateau. Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Chaque week-end, vous nous faites découvrir une spécialité régionale. Et ce soir, où est-ce qu'on va ?
Eh bien, dans un site troglodyte.
On avait maintenu le suspense, où est-ce qu'on est ?
Et qu'est-ce que c'est ? Alors on est à Rivarennes, c'est tout près de Tours, il n'y a que dans ce village que l'on entend ce bruit, le bruit d'un instrument en bois sur les poires pour réaliser la spécialité du village, la poire tapée. Exactement, la poire tapée c'est une gourmandise, un concentré du fruit, en fait c'est une poire séchée, complètement déshydratée, un peu comme un pruneau ou un abricot sec. La Touraine est une région fruitière et au Moyen-Âge, le village de Rivarennes s'est spécialisé dans la poire, mais pour pouvoir la conserver et la vendre, surtout les Rivarennais ont dû mettre au point un procédé de conservation et c'est comme ça qu'est née la poire tapée. Et c'est ce que donc m'a raconté l'une des tapeuses de poire d'aujourd'hui, Christine Hérin.
Alors, ils en connaissaient beaucoup hein, de procédés. Il y avait salé, fumé, mettre dans la cendre. Donc là, c'était vraiment pas possible pour le fruit. L'huile était beaucoup trop chère, l'alcool était très cher et le sucre, donc lui, il est venu des siècles plus tard, mais toujours trop cher. Donc il fallait trouver un autre moyen. Et comme à l'époque, les gens avaient des fours à pain, eh bien, les gens ont eu l'idée de faire déshydrater les fruits dans les fours. Et c'est comme ça que, petit à petit, les fours sont devenus des fours à poire. Et c'est sur la commune de Rivarennes. Donc, on fait chauffer les fours au bois à 500-600 degrés la veille et le jour de l'épluchage des poires. On épluche donc toutes les poires et on les installe sur des grandes clés en bois. Et une fois que les fours sont bien nettoyés et qu'ils sont à la bonne température surtout, eh bien on installe à plat les clés dans les fours. Une fois que toutes les clés sont installées, on ferme la porte des fours, on laisse une aération pour que toute la vapeur puisse s'en aller. Et la déshydratation va durer à peu près 120-130 heures. Donc en gros c'est 5 jours. Et là pour taper les poires, eh bien on prend un outil qu'on appelle une platissoire et on reprend les poires une par une et on les tape.
Et une fois tapée, la poire fait 1 cm d'épaisseur seulement, pas plus. Elle a une jolie couleur dorée et elle est marquée par les heures passées sur les grilles des clés. Et ça y est, elle est donc prête à être conservée pendant des mois.
Et alors Marion, comment on la cuisine ?
Alors vous pouvez simplement la manger comme ça, c'est une vraie gourmandise, il faut imaginer un fruit confit bien moelleux au vrai goût de poire. Et puis vous pouvez effectivement retravailler la poire tapée et là voici donc les astuces de Christine Hérin.
Vous les faites réhydrater toute la nuit à froid dans le liquide que vous avez choisi. Du vin, du thé, du cidre, de la bière, n'importe quel liquide, sauf de l'eau. On a mis 120-130 heures à l'enlever, faut pas la remettre. Et puis, ça serait très fade. Le lendemain matin, vous rajoutez le sucre que vous voulez, l'épice que vous voulez, ou rien. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et là, vous les faites cuire pendant une heure et quart. Et c'est pendant la cuisson qu'elles reprennent leur volume. Par exemple, vous faites une viande, eh bien vous les faites chauffer, ça va vous servir d'accompagnement et vous vous servez du vin des poires pour faire votre sauce.
Et elles s'achètent d'ailleurs soit déshydratées, soit réhydratées dans du vin de la région notamment.
Forcément. Alors Marion, comme chaque week-end dans votre chronique, vous invitez un chef sur Europe 1 qui revisite la spécialité. Bonsoir Christophe Hay.
Bonsoir à tous.
Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes le chef de la maison d'à côté, une table 2 étoiles, faut-il le dire, et précisé à Montlivaud, hein, c'est ça, près de Chambord.
Très bien.
Vous avez également le bistrot d'à côté, toujours à Montlivaud, et la table d'à côté, 1 étoile à Ardon, près d'Orléans. Alors vous, la poire tapée, vous la travaillez en dessert, c'est ça ?
Alors là, en l'occurrence, oui, on aime bien faire un dessert, puisque on retrouve justement le goût naturel du fruit. Et tout à l'heure, on parlait de gourmandise. Pour moi, la poire tapée, ça reste avant tout justement des souvenirs d'enfance avec les pâtes de fruits, ce goût vraiment puissant de poire. Et je trouve ça génial. Et moi, j'adore vraiment essayer de travailler sur les différentes textures de la poire. Et notamment, cette poire tapée, on vient juste y tailler des toutes petites lanières très fines. Et ça, ça va venir un petit peu apporter notre petite touche à nous sur notre dessert. Là, en l'occurrence, sur la poire tapée, ce qu'on aime bien faire, c'est un millefeuille, où là, on va aller chercher le côté un peu crémeux, le côté craquant du feuilletage. Et cette poire tapée, on va la réhydrater dans un vin rouge, et on va parler un petit peu comme un vin chaud, on va dire. Et ce vin chaud, on va lui apporter un peu de miel, un peu d'épices, et puis on va faire gonfler nos poires dedans. Et en l'occurrence derrière, on va également utiliser le jus de pochage parce que là la poire elle va aussi avoir infusé ce sirop et avec ce sirop on va y faire également le sorbet.
D'accord. Ce qu'il faut dire Christophe, c'est que dans ce millefeuille vous mettez de la vanille également pour que ça apporte encore de la douceur. Hein.
Exactement, les épices elles sont hyper importantes. On parle de vanille, on parle de badiane, donc qui est cette petite anis étoilée. Et puis, on peut y parler également de bâtons de cannelle, quelques petites épluchures d'écorce d'orange, un peu de citron. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent venir parfumer cette poire.
Et on retrouve plusieurs textures de poire tapée, du coup, dans l'assiette. Hein.
C'est ça, tout à fait. Ce que j'aime bien, moi, c'est derrière aller marier les textures. Et cette poire tapée, quand elle est réhydratée, elle est quand même assez fondante. Et ça, justement, on va venir le marier avec une crème pâtissière allégée, une crème pâtissière où on a apporté un peu de crème fouettée dedans, justement, pour qu'elle soit plus légère. Et on va vraiment garder ce goût puissant de la poire qui est très, très bon. Et au dernier moment, on déposera justement nos petits copeaux de poire tapée dessus.
Ah, ça donne bien envie tout ça. Et vous utilisez la platissoire, vous ?
On pourrait, mais en l'occurrence, il y a des gens qui font ça très très bien.
Ouais, très bien.
Elle est déjà tapée, la poire.
merci Christophe Hay d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Je rappelle vos 3 adresses. La table d'à côté à Ardon, près d'Orléans, le bistrot d'à côté et la maison d'à côté à Montlivaud, près de Chambord. Et on vous retrouve samedi prochain, Marion.
Et oui, on part en Bretagne, allez, un peu de fraîcheur.
Ça va être très bien, merci, bonne soirée. Europe 1. Dans un instant, le journal de 19h et puis juste après, le Club Tour pour décrypter cette magnifique étape des Pyrénées. Bonsoir Axel May.
Bonsoir Sébastien.
Alors, Julien Alaphilippe a conservé son maillot jaune, même s'il a perdu un peu de temps ce soir.
Oui, il a perdu du temps, mais il a encore son maillot jaune avec un matelas qui est malgré tout assez confortable. 1 minute 35 d'avance sur Geraint Thomas, le Gallois, le vainqueur sortant. En troisième position, à quelques secondes derrière, Steven Kruiswijk et Thibaut Pinot, qui a fini deuxième de l'étape remportée par Simon Yates. Eh bien, il est à 3 secondes du podium. C'est simple, ils sont 6 en 2 minutes, alors qu'il reste encore une semaine de course. Écoutez le Club Tour. Vous aussi, hein, Sébastien, d'ailleurs, vous pouvez réagir.
Comme chaque soir.
Comme chaque soir, vous pouvez réagir parce qu'on se demande tous, mais qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui arrive? Est-ce qu'on va avoir un Français succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour de France? On sera avec Thomas Voeckler et Patrick Chassé.
Ça va être passionnant, forcément, comme tous les soirs, et cette troisième semaine dans les Alpes, notamment. À tout de suite.